à Rencontre spirituelle aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre et de connaître un peu mieux le Bouddha, Gautama Bouddha, celui qu'on considère comme le fondateur du bouddhisme et que l'on appelle souvent l'illuminé, l'éveillé. Il a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ et c'est un personnage que le pape Jean-Paul II nous recommande d'apprendre à connaître. Ça peut peut-être vous sembler surprenant. Le pape a bien reçu, avec beaucoup d'affection, l'un des bouddhistes les plus importants, sinon le plus remarquable à l'heure actuelle, qui est le Dalai Lama. Le chef, pourrait-on dire, du bouddhisme tibétain. Et le Saint-Siège, d'ailleurs, redouble d'amabilité envers les amis bouddhistes, comme il les appelle. Un message est désormais, d'ailleurs, adressé par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux à l'occasion de la fête de Vesak. Qu'est-ce que la fête de Vesak? C'est la fête qui commémore la naissance de Bouddha. Et le message de 1995 nous a rappelé que le Bouddha, je cite, ça vient du pape du Vatican, est un grand maître pour l'humanité, dont les enseignements nous concernent tous. J'espère pouvoir vous montrer ça un peu. Le message d'avril l'an dernier, 97, qui venait du Vatican, estimait que les liens entre chrétiens et bouddhistes doivent être constamment construits et consolidés. Et Jean-Paul II multiplie pour sa part sortes de rencontres avec des dignitaires bouddhistes. Et le 20 mai 1996, comme je vous ai dit, il recevait au Vatican le Dalai Lama pour, ouvrez les guillemets, un échange de vues sur des thèmes spirituels et religieux. On nous a donné l'exemple à Montréal, le 30 octobre 1980, c'est pas d'aujourd'hui, il y a déjà près de 20 ans. Quant à la cathédrale catholique de Montréal, sur le boulevard René Lévesque, son Excellence Monseigneur Paul Grégoire, archevêque de Montréal, qui est devenu cardinal par la suite, a reçu sa sainteté le Dalai Lama du Tibet. Et il y avait là Don John Main, dont je vous ai parlé à la fin du mois de décembre, qui a fondé le monastère bénédictin de Montréal. Il était là, et avec des moines, et le Dalai Lama était aussi avec des moines, tibétains évidemment. Il y a eu une présentation du Dalai Lama par André Patry, qui est un commentateur politique. Le message de sa sainteté, le Dalai Lama, était un message d'amour, de compassion et de progrès social, qui avait été traduit par le père Robert Vachon, directeur de la revue Montchanin. Et puis, il y a eu un moment de méditation. Et le Dalai Lama demandait 20 minutes de grand silence, et on aurait pu entendre dans la cathédrale qui était pleine à capacité, il y avait même des gens assis par terre, on aurait pu entendre une mouche voler tellement le silence était intense. Où était le Dalai Lama? Bien assis dans le chœur, avec Monseigneur Grégoire. Le Dalai Lama était à gauche, Monseigneur à droite, je me souviens bien, puis ils étaient habillés presque de la même façon, dans des vêtements rouges foncés. Il y a eu une prière à Saint-François d'Assise, un mot de remerciement, puis on a pu rencontrer ensuite le Dalai Lama. Je vous raconte une anecdote. Je suis allé rencontrer le Dalai Lama et je me suis rangé un peu derrière lui après l'avoir salué. Il y avait là deux petits Tibétain de brossard, de 5 et 3 ans. Et celui de 3 ans dit, en regardant les biscuits villages, et probablement du tang ou du jus d'orange, je ne sais trop quoi, il disait qu'il en voulait. Et le plus vieux de 5 ans lui dit, « Ah, t'en voudrais du biscuit village? Eh bien, prends-en. » avec un accent si québécois que je suis resté estomaqué parce qu'ils étaient deux petits Tibétains habillés en Tibétain. Ils étaient de Brossard. Revenons donc à Bouddha, qui était donc Bouddha. À la fin du siècle dernier, ça va faire 100 ans l'an prochain, un Français a déterré, près du site supposé de la ville de Piprava, une urne funéraire avec une inscription. C'était écrit sur l'urne, imaginez, ici sont enclos les ossements du Bouddha. Et bien sûr qu'à son sujet, comme à celui de tous les prophètes, on a posé toutes sortes de questions sur l'historicité de sa vie. Je voudrais pas vous faire une vie inconcevable, comme on en lit beaucoup, j'en ai lu je ne sais combien. Je m'intéresse au bouddhisme depuis très longtemps, mais on lit toutes sortes de vies. Et sont incompréhensibles parfois. Aujourd'hui, c'est la thèse de Oldenburg qui rallie la plupart des savants qui se sont penchés sur ce problème. Et les savants concluent à la réalité historique de Bouddha, comme on conclut à la réalité historique de Jésus. Il y a des gens qui ont nié la réalité historique de Jésus. C'est insensé. Les pierres ensevelies par le temps livrent sur le passé, hein, peu à peu, toutes sortes de témoignages qui sont souvent bien émouvants. Et puis ça donne raison à ceux qui croient à l'historicité de Bouddha qui a vraiment vécu. On a découvert en 1896, donc il y a un peu plus de 100 ans, au nord de l'actuel Bénarès, vous connaissez Bénarès en Inde, n'est-ce pas, à Kapilavastu, les vestiges d'une colonne, écoutez bien, dressée 3 siècles avant notre ère, donc, par un empereur très connu, l'empereur bouddhiste Asoka, qui était très pieux, à l'endroit même de la naissance de Bouddha. Alors, pour un homme comme Henri Arvon, qui est un spécialiste, la personne que fut Bouddha se confond avec sa doctrine. Et il dit, et peu importe en l'occurrence de savoir si c'est la doctrine qui est réfractée par la vie, ou si c'est plutôt la somme des expériences que le Bouddha a accumulées au cours de ses 80 ans d'existence, qui a été codifiée dans la doctrine. Il y a une chose certaine, dit-il, la vie du Bouddha, c'est l'illustration la plus belle et la plus éloquente de sa doctrine. Maintenir intacte la version traditionnelle de la vie du Bouddha, c'est en même temps garder une vision précise de sa doctrine. Alors, il y a toutes sortes de légendes, je vous en fais grâce, mais je vais vous en parler un petit peu pour vous donner une idée. Des légendes qui entourent la naissance, surtout de cet enfant dès le berceau, qui a reçu le si beau nom de Siddhartha. Ça veut dire celui qui a réalisé son but. On l'a appelé par la suite aussi Sakyamuni, le moine silencieux des Sakya, parce qu'il appartenait au clan des Sakya, dont son père était le chef, dit-on. C'est donc à Kapilavastu, au nord de l'Inde, sur le versant indien de l'Himalaya, vous voyez le Népal d'aujourd'hui, là, que l'on peut situer la naissance de Gautama. C'est son nom patronymique. Hein, comme quelqu'un s'appelle Tremblay, ben lui s'appelait Gautama. Gautama, Bouddha, on donne le patronyme avant, comme dans bien des pays. Hein. Et il est issu de la famille, donc, comme je vous ai dit, ou du clan des Sakya. Son père s'appelait Suddhodana, et il est le chef du clan, comme je vous ai dit. C'est un raja, si vous voulez, un propriétaire terrien, qui appartient à la caste des guerriers. C'est donc un type assez ambitieux. Sa mère, elle, est plus pieuse. Elle s'appelle Maya. On l'appelle souvent la reine Maya, parce que son mari était très puissant. On admet que la naissance, donc, du Bouddha a eu lieu vers le milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. On avance même la date de l'an 560. Et voici ce que rapporte la légende qui a peu à peu pris corps au cours des siècles qui ont suivi sa mort. C'est assez intéressant. C'est une légende, je vous le rappelle. Hein? Donc, sa mère, la belle Maya, qui est sage et vertueuse et qui demeure chaste jusque dans l'état du mariage, elle a un rêve. Et elle voit, sans en ressentir la moindre douleur, un petit éléphant blanc qui a 6 défenses. Il pénètre dans son flanc. Et la naissance de l'enfant, non moins miraculeuse que la conception, a lieu après que sa mère l'a porté 10 mois plutôt que 9. Et ça a lieu, cette naissance, dans un bosquet d'un parc à Lumbini, non loin de la capitale, à l'ombre d'un figuier. Brahma, qui est le créateur, hein, dans la religion des hindous, Brahma, parce qu'on est en Inde. Hein. Alors Brahma lui-même accueille l'enfant, déjà tout rempli de science et du souvenir de ses existences antérieures. Hop, on tombe dans la réincarnation. Hein. Je vous ai fait déjà une émission sur la réincarnation il y a moins d'un an. Est-ce que c'est compatible avec le catholicisme? J'avais dit que non. Hein. C'est l'émission du 20 mars 1997. Alors, je ne suis pas réincarnationniste, ne vous en faites pas. Donc, il est tout rempli de science et du souvenir de ses existences antérieures. Mais les gens qui croient à la réincarnation nous disent qu'ils se souviennent de rien ou s'ils se souviennent de quelque chose, c'est toujours qu'ils ont été quelqu'un de bien important en général. Hein. Chose étrange. Enfin, je ne voudrais pas les attaquer. Et la nature autour de lui exulte. Il produit des choses extraordinaires. Les fleurs en boutons s'ouvrent spontanément. Puis il y a des musiques divines qui résonnent à toutes les oreilles. Mais l'enfant se lève alors, il vient de naître, il regarde autour de lui. Puis il fait 7 pas en direction de chacun des 4 points cardinaux. Il atteint ainsi, comme le souligne le fameux Mircea Eliade, le sommet du monde. Alors le sage Asita, du fond de sa retraite dans les Himalayas, dans les montagnes, un sage s'appelle Asita. Il a la prescience, il sait d'avance qu'est arrivé cet événement extraordinaire de la naissance de Bouddha. Alors il vient, un peu comme le sage Siméon, vous savez, dans l'Évangile de notre tradition chrétienne avec Jésus. Alors, il vient s'incliner devant l'enfant, qui porte sur son corps, dit-on, les 32 marques de sa gloire à venir. Alors, voici quelques-unes de ces marques, je cite hein, le texte. Son crâne présentera une excroissance, sur son front large et uni, entre ses sourcils se dressera un petit cercle de poils argentés. Le lobe de ses oreilles sera 3 fois plus long que la norme. Quand on voit des statues de Bouddha, souvent on voit qu'il y a des oreilles très très longues. Le lobe est long. On ajoute 2 peaux fines et couleur d'or. Il aura un corps souple et ferme comme la tige de l'arôme. C'est une plante. Une très belle plante d'ailleurs, l'arôme. Un torse large comme un poitrail de taureau. Puis sous la plante de chaque pied sera tracée une roue aux 1000 raies. Bon. Fini pour la légende. Je vous laisse penser à tout ça. Alors, mais nous savons maintenant, grâce à une connaissance de plus en plus poussée, par toutes sortes de sources, les textes d'abord, puis des fouilles archéologiques, on sait qu'un homme appelé Gautama, je vous ai dit, c'était son nom de famille, a vraiment existé, auquel on peut attribuer la fondation du bouddhisme. Les fables, les prodiges, qui sont chers à l'imagination indienne, ça a toujours été cher un peu partout dans tous les peuples, et ça nous incline à introduire dans le moindre récit toutes sortes de nombreux dieux dans ces récits-là. Et ça a dénaturé un moment la vie du Bouddha, mais nous pouvons maintenant la suivre en toute vraisemblance en faisant la part du réel dans des données que l'on appelle maintenant la tradition la plus vraie. On sait que l'enfant était extraordinairement doué dès sa naissance, qu'il sait très vite marcher, puis il a appris à parler assez rapidement. Il a fait preuve rapidement aussi de qualité d'intelligence remarquable. Puis il a reçu, comme tous les jeunes garçons de son âge et de sa caste, une éducation sportive, une éducation guerrière, un peu comme Saint-Louis de Gonzague lundi dernier. Et naturellement, il apprend l'enseignement traditionnel des Védas, les livres sacrés des hindous. Puis il étudie leurs commentaires. Puis il s'initie au rite et à la magie. C'était très populaire, c'est toujours très populaire là-bas. Et il connaît la littérature puis l'astronomie. Et par des devins qui sont penchés sur son berceau, bien son père, Suddhodana, là, a appris que Siddhartha aura une destinée exceptionnelle et qu'il sera soit un puissant monarque, soit un sage, le plus parfait des ascètes. Et son père, qui est pieux, préférerait que se réalise pour son fils qu'il devienne un puissant monarque. Alors il entoure sa jeunesse de luxe et de beauté. C'est comme ça qu'il grandit dans le luxe et la beauté, comme Louis Gonzague. Et il ne permet pas qu'aucun spectacle triste ou déprimant vienne assombrir même un seul instant de la vie de son fils. Et il dit « Je fus gâté, très gâté ». C'est ça que raconte le Bouddha. « Je ne me parfumais qu'avec du santal de Bénarès, et jour et nuit, un parasol blanc était tendu au-dessus de moi. J'avais un palais pour l'hiver, un autre palais pour l'été, et un pour la saison des pluies. Il avait trois palais, imaginez. Durant les 4 mois de la saison des pluies, je ne quittais pas le palais et j'étais entouré de musiciennes. Alors, Siddhartha, Bouddha, si vous préférez, n'est pas très heureux dans ses palais. Il est jeune. Il se demande si la splendeur des sommets couverts de neige, hein, il est au pied des Himalayas, dans le Népal d'aujourd'hui, là. Puis si le ciel qui est limpide, et puis si les vents qui viennent du nord, qui sont... qui apporte jusqu'au palais l'air pur qui vient des glaciers, est-ce que tout cela incline notre jeune homme à la méditation? C'est fort possible, hein? Est-ce qu'il a la prescience que hors des murs de ses palais, dans lesquels son père l'enferme, est-ce qu'il y a un autre monde qui existe? Un monde qui serait sujet à la douleur, à la maladie et à la mort. La douleur, la maladie, la mort. Voici un premier événement qui va le toucher tout jeune. Très jeune encore, c'est ce que raconte Paul Arnold. Il assiste au rite printanier du premier sillon célébré par le prince. Le soc de la charrue met au jour un vermisseau qu'un oiseau vient dévorer aussitôt. Songeur, l'enfant, futur Bouddha, va s'asseoir sous un arbre pour méditer sur ce cruel spectacle, un oiseau qui mange un vermisseau. C'est, dit la tradition, la première semence de la doctrine bouddhique, qui va se répandre à travers le monde et qui est de plus en plus populaire. Hein? Alors, en grandissant, Gautama Bouddha va sentir jusqu'à l'angoisse, la fragilité des choses, l'amertume de tout ce qui meurt. On a eu beau lui épargner même le spectacle d'une rose fanée, on va jusque-là, il va apprendre que la vie est pleine de souffrances. Il va devoir faire face, c'est-à-dire, à la réalité. Pourtant, à 17 ans, il épouse sa jolie cousine Yashodhara, fille du prince d'un pays voisin, alors son père est bien content. Une ravissante épouse, quoi. Un foyer, des enfants, sans doute. Ah, mon Dieu. Voilà qui va faire oublier à Siddhartha, t'as vu, c'est son prénom, le désir de la cèse. Alors là, le destin en décide autrement, il va être très tôt confronté à la douleur humaine, où il va se heurter aux 4 plaies majeures des hommes. Retenez bien ça, c'est fondamental chez les bouddhistes, les 4 plaies majeures des hommes, et d'ailleurs nous pouvons aussi le comprendre comme catholique, comme chrétien, la maladie, la vieillesse, la mort, puis évidemment la pauvreté. On dit que c'est au cours de 4 promenades qu'il a faites hors du palais, qu'il les a rencontrées, ces 4 plaies. Il voit d'abord un malade qui se tord de souffrance, puis ensuite un vieil homme sénile, la vieillesse, un déprimant spectacle s'il en est, puis la mort qui se présente à lui, c'est un mort que ses parents mènent au bûcher sur le bord du fleuve. Hein? On les brûle, les morts, là-bas, hein? Comme on fait de plus en plus chez nous, au cimetière de la Côte des Neiges ou ailleurs, hein, l'incinération. Et enfin, il y a la pauvreté. Alors, il voit un de ses moines mendiants qui tend son bol à aumône. On peut se demander si c'est cette dernière rencontre du moine qui va lui indiquer le chemin. Comment en effet trouver la voie, le chemin? Jésus nous a dit à nous, « Je suis la voie ». Et pour nous, chrétiens, c'est quand on adhère en tout amour, avec passion, à Jésus, en écoutant sa voix, V-O-I-X, qu'on comprend la voix, V-O-I-E, qu'il est, et on adhère à lui, et on le suit. Viens, suis-moi. Ici, c'est différent. Comment en effet trouver la voie, se demande cet hindou, au fond, qui sera le fondateur du bouddhisme. L'idée maîtresse du bouddhisme, trouver une voie pour sortir de la souffrance humaine, ça va s'imposer à lui. Le plan de son père a échoué, c'est la seconde prédiction des devins qui sera la bonne. Vous souvenez les devins à la naissance qui avaient prédit qu'il serait peut-être un monarque ou un grand sage. Alors voilà, il va devenir un grand sage. Et Siddhartha ne sera pas un monarque puissant, il sera l'ascète solitaire à la recherche de la vérité. Et là, le Bouddha a 29 ans. Sa femme vient de lui donner un fils qui s'appelle Rahula. Et cette naissance lui apporte la confirmation qu'une nouvelle chaîne le lie à cette existence tissée de souffrance et de mort avec laquelle il souhaite rompre. Et c'est alors, et chose étrange, la décision du grand départ qui s'impose à lui, et que la nuit même il met à exécution. Bon, il y a des auteurs qui disent que ça a pris plusieurs années après la naissance de son fils, dont il s'est occupé quand même au début. Bon, il quitte le palais princier, où tout dort, il renvoie bientôt le seul serviteur qui l'accompagnait avec son cheval. Et celui-ci, dit-on, en est mort de tristesse. Pas le cheval, évidemment, le serviteur. Et resté seul, il coupe sa longue chevelure. Il rejette ses beaux vêtements. Il se met sur le dos des écorces d'arbres. Il part à pied sur les chemins de la forêt en quête de la vérité. Moi, j'aime ça, les gens qui cherchent la vérité. Il me plaît, ce Bouddha. Il ne fait que suivre en cela la même voie que beaucoup de ses contemporains, les ermites et les yogis, qui cherchent déjà le salut, n'est-ce pas, dans le renoncement, en se retirant du monde, dans le plus extrême dénuement. Et pour l'amour des hommes, il va chercher longtemps. Il va parcourir durant cette année la vallée du Gange. Vous savez, le Gange, le grand fleuve, là, qui coule près de Bénarès. Il rencontre toutes sortes de maîtres, tels que l'ascète Arada Kalama, qui lui enseigne sa façon de méditer. Il rencontre aussi Udraka Ramaputra. Il va essayer, lui aussi, comme ce sage, de se retirer dans une grotte afin de pratiquer la méditation qu'on appelle le samadhi, par la respiration contrôlée, vous savez, par le jeûne. Sa réputation de sagesse et son ascétisme rigoureux lui ont attaché 5 disciples qui le suivent comme leur maître, et voilà que celui que l'on commence à appeler Sakyamuni, du nom de son clan, n'est-ce pas, va par les chemins de la forêt. Il écoute beaucoup, où il meurtrit son corps par des privations inhumaines. Il dort sur des épines, il jeûne jusqu'à la limite extrême de ses forces, il essaie toutes les tortures de soi pour n'être plus qu'un esprit, à la recherche d'une totale concentration délivrée des contingences humaines. Et ça rappelle les vies de nos saints qui sont allés souvent dans leur jeune temps à des extrêmes, comme justement Louis de Gonzague lundi, qui a abîmé un peu sa santé. Il était tout jeune, il avait 15 ans, 16 ans. Alors, lui fait pareil, mais là, il a 30 ans, lui. Il arrive comme ça aux portes de la mort. La tradition fait intervenir l'âme de sa mère, qu'il l'aurait rappelé à la vie. Alors, au bout de force, puis le corps rompu, Bouddha prend tout à coup conscience que c'est pas là le vrai chemin. C'est pas en détruisant son corps. Pas plus que la vie luxueuse qu'il a menée dans ses palais. La vie d'errance et la terrible ascèse ne le satisfont, ça lui plaît pas. Une voie s'impose, c'est quoi? C'est la voie du milieu, de la sagesse. On le voit bien dans le sourire du Dalai Lama, hein? C'est la voie du milieu. Il reconnaît que les privations excessives ne mènent nulle part. Puis il prend conscience qu'il doit satisfaire aux besoins élémentaires de la vie. C'est sûr, Dieu nous a donné un corps. Nous croyons en Dieu, nous croyons que c'est Dieu qui nous a fait. C'est un don, notre corps. On doit en prendre soin, pas de façon excessive. On doit le discipliner, le faire jeûner, etc., mais aussi le bien nourrir. Alors il recommence donc, lui, dans son temps, il y a 2500 ans, à se nourrir frugalement, et tout aussitôt ses disciples, qui s'imaginent qu'il est tombé dans la lâcheté, il l'abandonne, il le laisse seul, et lui il est désespéré. C'est ici que l'on place la tentation du Bouddha. Il s'assoit au pied d'un arbre, l'arbre Bodhi, ou Bo, B-O. C'est très important ça dans sa vie, c'est un arbre de la sagesse, près de la rivière Naranjana, et où il va subir les assauts du de Marat. Et Marat n'est pas un prince du mal, pas plus qu'un principe du mal coéternel au bien extérieur à l'homme. Non, non. Pareille notion n'existe pas dans le bouddhisme. Qu'il suffise, dit Bouddha, de savoir que Marat nous guette et qu'il faut sans cesse demeurer vigilant pour ne pas succomber à notre nature charnelle. Il dit, c'est cela, Marat, c'est l'image de nos passions. Un peu comme on pourrait dire que le démon, c'est souvent simplement l'image de nos passions. Je vous ai déjà fait une émission sur Satan, je crois à Satan, je crois au démon. Mais souvent, on applique au démon toutes sortes de choses, alors que c'est nous-mêmes, nos passions qui nous hantent. Revenons donc à Bouddha, à sa mère, les gens qui l'entourent, ses disciples. Nous allons voir l'évolution de sa vie. Il nous a dit tout à l'heure qu'il était, il y avait les assauts de Marat, qui est l'image de nos passions, dit-il. Et ces passions se déchaînent sur lui comme une grouillante armée, dit-il. Qui sont les membres de cette armée? Il leur donne des noms. Il y a le doute, la suspicion, la crainte, la tristesse, la faim et la soif, la colère et la lâcheté. Alors le démon lui délègue, Marat, qui est l'image de ses passions, là, lui délègue ses filles, donc, comme je viens de vous nommer, qui ont des charmes pour le séduire. Qui n'est pas séduit par la suspicion, par la crainte, par la tristesse, par la colère, la lâcheté, le doute, hein? Ça nous attaque continuellement. Alors il les nomme, lui. Puis, il dit que le démon Marat vient en personne lui assurer qu'il ne connaîtra jamais l'illumination. C'est une figure de style, hein? Comprenez. Le Bouddha, suivant le rituel du serment indien, lui montre alors sa main gauche, qui porte les marques de ses bonnes actions. Puis il touche la terre de sa main droite. C'est une attestation de la terre qui est une des poses essentielles du Bouddha. On voit ça souvent quand on le reproduit, quand il y a ce geste-là. Alors, les passions sont vaincues, Marat est vaincu, quoi. Et l'éveil peut se produire, voilà. Il peut atteindre à ce qu'on appellerait, nous, la sainteté. En profonde méditation, Sakyamuni Bouddha découvre d'abord la loi de la production conditionnée des divers éléments de l'existence, là. Puis les quatre nobles vérités, comme il les appelle, de la douleur, de l'origine de la douleur, de la cessation de la douleur, puis enfin, la voie qui mène à la cessation de la douleur, parce qu'il y a une voie qui mène, pour lui, selon lui, à la cessation de la douleur. Alors, retrouvons-le donc sous l'arbre de la sagesse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, où son extase, rapporte la tradition, dure 7 jours. La béatitude qu'il a pu ainsi connaître, ce Bouddha, qu'il a pu goûter dans sa plénitude, la doctrine du salut qui permet de l'atteindre. Est-ce que Bouddha va les faire connaître aux autres hommes ou s'il va garder ça pour lui, comme un ermite? Parce qu'il se pose la question, le monde qui l'entoure, est-ce qu'il est mûr pour recevoir cet enseignement, alors qu'il voit bien que les gens sont prisonniers du désir puis de l'illusion, hein? Il se dit, à quoi bon découvrir au monde ce que j'ai compris dans de pénibles combats? La vérité demeure cachée pour celui qu'emplissent le désir et la haine. C'est vrai, les gens qui sont pleins de désir puis de haine, comment leur faire entendre, pour nous chrétiens, que Jésus-Christ est leur vie, leur liberté, leur joie, leur amour, leur alpha, leur oméga, comme on dit en grec. Ces choses, dit Bouddha ici, ces choses qui coûtent de la peine, pleines de mystères, profondes, cachées, à l'esprit grossier, les gens grossiers ne peuvent l'avoir. Ceux dont les désirs terrestres enveloppent l'esprit de ténèbres. En sa résolution est prise, Bouddha se dit, ce qui sert à la paix, voilà ce que je suis venu enseigner, la vérité sur la souffrance, son origine et son extinction. Alors il part pour Varanasi, qu'on appelle Benares, hein, c'est là où ils vont se baigner dans le Gange, les foules immenses d'hindous, hein, on voit ça. Hein. Et il retrouve là ses 5 premiers disciples qui l'avaient quitté. Puis dans un bois des environs, il va prononcer devant eux son premier sermon que la tradition nomme la mise en mouvement de la roue de la loi, le sermon de Bénarès. C'est très un grand classique de la littérature spirituelle, ça. Faudrait qu'un jour je vous fasse une émission sur le sermon de Bénarès, c'est très beau. Alors là, les cinq hommes, les cinq ex-disciples, le supplient alors de leur donner l'ordination. Ils veulent redevenir des disciples. Et la première communauté, donc, de moines bouddhistes est formée. Ainsi, suivi de ses disciples, le Bouddha va de village en village et simplement vêtu de la robe jaune, connaissant et le crâne rasé, mendiant son bol de riz, comme le font encore de nos jours les moines bouddhistes en Extrême-Orient. Il prêche, puis il enseigne à tous, les riches et les pauvres, de toute caste. Il touche à la belle étoile, comme on dit, et sous les hangars des potiers, là, à la saison des pluies, quand les chemins deviennent des espèces de... ça devient absolument impraticable, il prêche là, sous les... ces abris-là. Il vit dans l'extrême pauvreté. Le Bouddha est bientôt suivi de nombreux adeptes. Et là, les riches marchands côtoient de simples paysans, puis les brahmanes de simples courtisanes, puis des parias de la plus humble condition aussi. Alors, il envoie les nouveaux convertis à leur tour prêcher la doctrine. La doctrine, ouvrez les guillemets, pour le salut de beaucoup, pour le bonheur de beaucoup, par compassion pour le monde, pour le bien, pour le salut, pour le bonheur des dieux et des hommes. C'est beau, finalement. Évidemment que tout ça manque de Jésus-Christ, tout ça manque de Dieu, hein? C'est une religion, on ne parle pas de Dieu. Alors, on peut percevoir, dès ses débuts, le caractère d'universalité fondamentale du bouddhisme. Même les esclaves peuvent devenir moines si leur maître renonce aux droits qu'ils exercent. C'est comme chez nous. Il y a beaucoup d'esclaves qui sont devenus moines bénédictins autrefois. Au sein de la communauté règne la plus stricte égalité. La seule hiérarchie reconnue étant celle de l'ancienneté, comme dans les monastères catholiques. Le Bouddha doit souvent sévir contre ceux qui transgressent les lois de la discipline monastique, là. Car il n'est pas aisé pour un brahman de céder, un brahman, c'est un hindou, là, de céder, qui est un homme de la haute caste, là, de céder le pas à un homme de couleur, qui le teint presque noir. Ordonné souvent bien avant lui dans le monastère, obligé même quelquefois à suivre son enseignement, le brahman de la misère à saint. Le racisme en Inde est horrible, le système des castes, ça existe toujours. Mais ça existait il y a 2500 ans et Bouddha a eu de la difficulté avec ça. Alors la renommée de Bouddha fait venir à lui les puissants comme un roi, le roi Bimbisara, qui va donner au Bouddha sa ferveur et son amitié, mais encore des biens matériels considérables, tels ce don à la communauté du bois des bambous, où le bienheureux Bouddha fait de longues retraites. Puis un riche marchand, Anathapindada, qui adhère lui aussi à la doctrine, puis qui dote la Sangha du monastère de Jetavana, qui est très réputé. Et Bouddha est un extraordinaire psychologue, hein, en un temps où l'on ne connaît même pas ce mot-là en Occident. C'est un psychologue, Bouddha. Il n'est pas bête du tout. Les textes qui permettent de telles affirmations n'ont été codifiés que plusieurs siècles après sa mort, puisque l'enseignement était alors uniquement oral. Guidé, comme Jésus, son enseignement n'était pas écrit, son enseignement était oral. C'est pour ça que la tradition à laquelle les catholiques croient est née avant les écritures du Nouveau Testament. La tradition, notre foi est fondée sur la tradition et les textes, la foi catholique. Alors, guidé par une intuition, ce Bouddha-là, une intuition sans faille, bien ce Bouddha donne à chacun précisément ce dont il a besoin. Il s'adresse à l'homme et non au noble, au brahman ou à l'esclave. Il s'adresse toujours à l'homme. Il n'attache aucune importance à la naissance, à la richesse ou à la situation sociale. Il sait ce que c'est, il en vient, lui. Il fait absolument nouveau dans une société aussi strictement hiérarchisée. Puis doué de grandes sciences, il perce à jour le cœur de l'homme orgueilleux. Il se joue de lui en lui prédisant une renaissance indigne. C'est ce qui précise définitivement la doctrine là, de la transmigration, là, ces renaissances qui naissent des milliers de fois, là, qui est très flou dans le brahmanisme. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Ce à quoi nous,
catholique, nous ne croyons pas. Les femmes aussi participent au développement du bouddhisme naissant. Il y a des courtisanes, des femmes de riches marchands. Elles font bâtir des monastères à quelques lieux des villes où les moines, eux, peuvent trouver un abri pour faire leurs exercices religieux. Et de là, ils n'ont pas trop de chemin à faire pour aller mendier leur bol de nourriture de maison en maison. Et le propre fils du Bouddha, Rahula, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il avait quitté, il entre dans la communauté. Et pour sa tante, Maha Prajapati, qui l'a élevée, il crée l'ordre très sévère des religieuses, placées sous la rigoureuse domination des moines, car il craint pour eux la corruption des mœurs, puis se méfie des femmes. Oh. Et près de lui, on trouve encore son cousin, Ananda, un homme de la noble caste des guerriers. Hein? Je vous avais dit que son père était guerrier, d'ailleurs. Homme de douceur, pourtant, puis de dévouement pour le maître Bouddha qu'il admire. Upali, le barbier de sa famille, qui, malgré sa profession encore décriée dans l'Inde actuelle, est ordonné moine, avant deux amis d'enfance, Sariputra et Moggallana. Et il a, par conséquent, le pas sur eux dans la Sangha, dans le monastère. La résonance que prend un enseignement aussi révolutionnaire dans cette société brahmanique figée dans la rigidité de ses traditions est fantastique. Hein? Il y avait tellement un système de caste, hein? Un souffle d'air pur jaillit de cette personnalité rayonnante du Bouddha, qui est un exemple vivant du dépouillement volontaire le plus total, puis de l'humilité. Là où les privilèges de caste sont exorbitants, puis la politique dominée par la violence, l'arrogance des grands suscite la révolte des castes inférieures. Hein? Or, le Bouddha va proposer à tous les hommes, sans distinction, une véritable révolution, mais une révolution qui transcende toute perspective sociale. Et au cours de ces 40 années de voyage qui le mènent des contreforts de l'Himalaya aux rives du Gange, il ne rencontre pas que des amis. Il doit souvent, lorsqu'il enseigne en plein air, sur les places publiques, mais il doit faire face à des religieux qui appartiennent à d'autres sectes qui se plaisent à l'embarrasser par des questions insidieuses, et sa sagesse en triomphe toujours, parce que son égalité d'âme est pour tous le modèle de la vertu principale du bouddhisme, comme l'égalité d'âme de Jésus. « Ceux qui me font de la peine et ceux qui me préparent de la joie, dit-il, envers tous je suis pareil. Je ne connais ni inclination ni haine. Qu'on me fasse de la peine, ça n'a pas d'importance. Il faut se dire ça un jour. Dans la joie et la douleur, je demeure impassible, dit-il, dans l'honneur et dans l'absence d'honneur. Partout, je reste pareil. C'est là la perfection de mon égalité d'âme. C'est la situation dans laquelle aspirent les saints. Comme Jésus, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, qui endurent les insultes de Pilate, etc., et qui nous donnent un si bel exemple grandiose de la bonté. Ah, Jésus, j'aime bien Bouddha, mais j'aime encore mieux Jésus. Nous arrivons maintenant au dernier moment de la vie de Bouddha. En la personne de son propre cousin, Devadatta, le Bouddha rencontre son traître, qui rêve de le supplanter à la tête de la communauté monastique, et qui va tenter à plusieurs reprises de l'assassiner. On raconte qu'il a voulu même le faire écraser sous le pied d'un éléphant enivré. Un éléphant enivré, oui. Mais que l'énorme animal, qui était vaincu par la douce compassion du regard du maître Bouddha, mais il s'est agenouillé devant lui. Une belle histoire. Tout ça charmant. Il doit aussi supporter, pour Bouddha, la presque totale disparition des siens. Le clan des Sakya, c'est pour ça qu'on l'appelait Sakyamuni, n'est-ce pas, est anéanti parce que le fils de Bimbisara, qui a fait assassiner son père pour régner à sa place, veut assouvir une vengeance personnelle et, dans ce but, fait massacrer toute la famille sans épargner femmes et enfants. C'est dire combien il a souffert. Alors l'heure de la mort approche. Le Bouddha a 80 ans. Pour la dernière fois, il se met en route. Les étapes sont courtes, car ce grand maître est fatigué. Il est entouré de nombreux disciples, dont le fidèle Ananda. Il franchit le Gange, le fleuve, là où va s'élever plus tard la ville de Pataliputra, qui s'appelle maintenant Patna. Quand vous achetez du riz, vous voyez souvent ça, Patna, du riz Patna, ça vient de là. La légende raconte qu'il a prédit en passant la future gloire de cette ville, qui est devenue, en effet d'ailleurs, 2 siècles plus tard, la capitale de l'Empire des Moria. De toute façon, il fait retraite durant la saison des pluies suivantes dans un monastère, le monastère de Vanugrama, où il frôle la mort, oui, de très près. Il est terrassé par une très violente crise de dysenterie. Et il sent que le temps lui est compté, à son disciple favori, là, Ananda, il dit, « Soyez, ô Ananda, votre propre flambeau et votre recours. Hein? » Ils n'ont pas de recours à Dieu. C'est l'examen intérieur, c'est la discipline intérieure, c'est la vie qui se fait comme ça. Il ajoute, « Celui qui, dès ce moment, ô Ananda, ou après ma sortie de ce monde, sera son propre flambeau et son propre recours, celui qui fait de la vérité son flambeau et son recours, ceux-là seront, ô Ananda, mes disciples au suprême degré, qui poursuivront la bonne façon de se conduire. Hein? » Tandis que Jésus dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et Jésus vit en nous. Il se donne à nous dans l'Eucharistie. Il est vivant en nous. Or, si nous en prenions connaissance, on pourrait dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, Dieu vivant en nous. » C'est une religion très différente, le christianisme. Mais c'est beau d'étudier le bouddhisme quand même. Hein? Parce que comme quelqu'un dit, c'est Jean-Claude Barrault qui disait ça, « L'expérience de Bouddha est celle assez commune à tous les jeunes qu'on a voulu tenir à l'écart de la vie. Hein? » Dans des, on leur a donné toutes sortes de cadeaux, les vêtements, les tout ce qu'ils veulent. Hein? Et qui, ayant enfin découvert la réalité, se disent, « Ah, le monde de mes parents est un monde bidon. » Mais Bouddha ira, lui, dit Jean-Claude Barrault, jusqu'aux conséquences les plus extrêmes de la négation. Une longue méditation le conduit à rejeter le paganisme indien. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui rejettent le paganisme de leurs parents. Si vraiment tout débouche sur la mort, la seule dignité de l'homme est dans le refus des apparences et l'acceptation du néant, alors il lui faut s'arracher à la ronde éternelle des joies et des souffrances. Hein? Alors l'athéisme, le nihilisme de Bouddha, reste cependant profondément religieux, et si les jeunes sont pris souvent dans ces dédales parce qu'on leur a pas enseigné la vie du Christ vivant en eux. Et Bouddha, lui, il reprend la route, pourtant pour une dernière étape. Il sent sans doute la nécessité de livrer son ultime message, il veut montrer à tous la même fermeté exemplaire devant la mort qui sent l'envahir. Et certains textes disent qu'il a été provoqué par un plat de champignons que lui a servi Kunda, un forgeron, chez qui il a fait une halte pour prendre son repas dans un bourg sur la route de Kusinagara. Et là, le Bouddha, ce vieux maître, est épuisé. Il doit s'arrêter, entouré par les siens. Désolé, impuissant, puis au bord de la rivière, dans un bosquet de teck, on lui prépare une couche sous deux arbres jumeaux. Il s'y étend sur le côté droit, la tête dans la direction du nord. Il a le visage tourné vers l'ouest, il est plein de sérénité. Il donne alors à ses disciples ses dernières instructions. Puis un remous qui agite la foule qui l'entoure à distance. Puis un prêtre qui appartient à une autre religion, Subhadra, demande instamment de lui parler. Alors le bon disciple Ananda le repousse. On veut protéger le mourant, mais le Bouddha va user ses dernières forces pour enseigner la doctrine à cet homme inconnu qui n'est pas bouddhique. Et il va finalement l'ordonner moine très rapidement, même s'il a institué lui-même un rigoureux noviciat d'au moins 4 mois. Il veut sans doute donner par là l'exemple même de l'interprétation de la règle. On peut interpréter la règle. La règle, c'est pas tout, hein, car il préfère considérer l'esprit et non la lettre. Et il veut miser sur les qualités de l'homme, qu'il peut percevoir mieux que personne dans sa sagesse infinie. On dit que le nouveau moine a connu aussitôt l'éveil. Il a précédé Bouddha dans la mort, et là la nuit tombe, et Ananda, le disciple, pleure doucement. Il s'attire cette remarque. « Comment, avec tout ce que tu enseignais, peux-tu encore éprouver de la douleur? Est-ce donc si difficile à un homme de se débarrasser de toute souffrance? » Il lui dit encore, « Il pourrait se faire, Ananda, que vous pensiez que la parole a perdu son maître, que nous n'avons plus de maître. Hein? Il ne faut pas penser ainsi. Ananda, la règle que j'ai enseignée et prêchée, voilà votre maître, c'est elle. Lorsque j'aurai disparu, à tous ceux qui sont autour de lui, il dit enfin, tout ce qui est créé est périssable. Luttez sans relâche. » Puis il entre en méditation, puis il passe de l'extase à la délivrance. L'événement aurait eu lieu à la pleine lune du mois de novembre, selon la tradition sanscrite. On dit aussi avril-mai, si l'on en croit la tradition pali. Quant à l'année, l'étude comparative et critique des sources anciennes permet de placer la mort de Bouddha aux alentours immédiats de 480 avant Jésus-Christ. Et le corps de Bouddha est brûlé, selon la tradition. Il y a des honneurs quasi-royaux qui lui sont rendus. Mais on dit que la possession de ses cendres, recueillies sur le bûcher funéraire, a failli faire l'objet d'une guerre entre tous les peuples qui se les disputaient. Et voilà, c'est la fin de la vie de Bouddha. Soyons respectueux à l'égard des bouddhistes. C'est une religion sans Dieu. On n'en parle pas. Moi, ça m'attriste parce que j'aime Dieu. J'aime Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est venu nous parler et qui vit en nous et que nous pouvons recevoir à l'Eucharistie. Ce que je ferai encore aujourd'hui comme je le fais tous les jours et comme la plupart des auditeurs, je crois, le font. Et je pense que nous avons raison.